Bonjour Monsieur Comte.
Bonjour Maria.
Je suis très contente que vous êtes disponible de faire cet entretien avec moi. Je vais tout de suite commencer, n'est-ce pas, avec les questions que j'ai relevées. Après, on peut toujours ajouter, si vous avez à la fin, vous pouvez dire un mot de fin, n'est-ce pas, s'il y a des sujets que je n'ai pas apportés. Votre père avait terminé sa première année au Khalifa lors de notre interview en 2007. Il est maintenant dans sa 9e année comme khalif. Ayant été à son côté durant tout ce temps, pourriez-vous réfléchir sur les 8 dernières années?
Oui, oui. Maria, donc, tous nos remerciements. Ma disponibilité est un peu à l'image de l'intérêt que vous portez à Ndiassane, à la famille Khadria, à la famille Kountiou, parce que vraiment vous êtes beaucoup intéressé à cette famille-là. C'est tout un honneur pour nous aussi de vous recevoir. Et vous êtes maintenant presque membre à part entière de cette famille Kountiou. Vous avez même désisté à certains honneurs pour être dans le bain chez les Koulibaly. Ça, c'est extraordinaire. On vous avait préparé une chambre, on voulait vous accueillir par notre population, mais par votre personnalité et votre degré d'implication. Comme vous l'avez dit, en 2007, vous étiez là, et ça nous a beaucoup frappé. Les gens, ils viennent, ils passent. Ils ne mettent pas la main dans la pâte. Mais vous, vraiment, c'est un modèle de recherche. C'est un modèle de chercheur, parce que vous acceptez le dépaysement et tout ça. On vous remercie. Je le fais au nom du Khalife, au nom de la famille Koundou, au nom des disciples Khadria du Sénégal. Comme vous l'avez dit, je suis le fils aîné du calife. Je suis le secrétaire général, si on parle d'un ministère, de un peu de ce khilafa. Donc j'étais à son côté, et je l'accompagne. C'était presque une nécessité. J'ai pris du recul par rapport à mon travail, je ne sais pas en témoigner. J'ai laissé mon poste de chef de bâtiment pour venir à côté de mon père. Parce que tout le monde sait que je suis universitaire. Et si je ne sais que la fa entre les mains des autres, si je ne suis pas présent, ça pose des problèmes. Donc je suis partagé entre mon travail à l'université, à la FASTEF, et un peu ce qui se passe ici. Bon, vraiment, c'est tout un plaisir. C'est même un don de Dieu. Ça, je le dis, que mon père soit calife et que je sois à ses côtés. Pour l'aider, pour le conseiller, évidemment pour régler les affaires du Khilafa. C'est important. Donc c'est un poste presque de secrétaire général dans un ministère. D'ailleurs, je m'appelle moi, je me suis donné un coordinateur général du Gamou de Niassar. Donc c'est en fonction des événements qu'on se présente, c'est en fonction de cela. Bon, il y a un porte-parole, il y a un secteur particulier en arabe. C'est tout un gouvernement qui est là autour de lui. Bon. La question me renvoie à un bilan du temps, parce qu'en décembre, il va faire 10 ans. Vraiment, il faut le dire, avec la grâce de Dieu, moi, je ne pensais pas. Il est vieux, mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, il est encore là, il est lucide, il a 91 ans. Vraiment, et depuis lors, comme vous l'avez dit, les choses ont bougé dans le bon sens. D'abord, on a vu, les gens l'appellent le calife. Chance, qui a de la chance. Quelle chance, c'est vrai. Parce que c'est le premier petit-fils de Cheikh Bokounta à accéder à cette fonction, qui est vraiment une fonction de prestige. Tout le monde n'est pas calife. Dans la lignée, vous l'avez vu, il y en a qui ne seront jamais califes. Et là, par l'âge aussi, ça élimine certains. Mais c'est le premier petit-fils. Et chaque fois qu'il y a changement de génération, les gens ont peur. En disant, est-ce qu'il peut faire comme les autres? C'est-à-dire son père ou ses oncles. Mais je pense avec la grâce de Dieu, et il le dit modestement, il dit non, c'est mes oncles, mon père, c'est mes oncles qui ont travaillé, et moi c'est une continuité. Mais une continuité avec des convergences. Des convergences d'abord politiques. Quand il est arrivé, c'était le mandat d'Abdoulaye Wade, qui était tellement ouvert aux chefs religieux, ça nous a aidé à faire pas mal de choses. Savez-vous que nous sommes traités comme une minorité? Parce que les gens parlent de pourcentage. 60%, ils s'occupent des choses, 35%, la Hadria, comme les chrétiens, 5%. C'est assez frustrant. Parce qu'en termes de foi, on ne peut pas peser un homme par le nombre de kilogrammes. C'est son adhésion, c'est un peu son engagement par rapport à Dieu. C'est cela. Un élu peut valoir 1000 individus dans le cadre de la religion. Mais c'est ainsi fait, on n'y peut rien. Mais ce qui est important pour cette Hadria, et pour ce que mon père est en train de faire, c'est l'ancienneté. La Khadija, c'est le 7e siècle, marqué par Abdul Khadir Jilani au 11e, 12e siècle. Ça, tout le monde le sait. Et depuis lors, il y a un héritage. Et quand c'est ancien, il y a de l'usure. Mais de temps en temps, il y a quelqu'un qui vient redémarrer les choses. En termes de rénovation, je pense que mon père, on peut dire son nom quand même, il a fait des choses. D'abord, la modernisation de la ville. C'était un petit village. Comme un nid d'oiseau entre des branches. C'est une affaire familiale. Et aujourd'hui, on a eu un tableau de bord, on a développé, on a un peu urbanisé. Parce que la spécificité de Ndiassal, c'est surtout une Khadria qui n'a pas de frontières, qui va jusqu'en Éthiopie. Et puis, nous avons une forte colonie de Maliens, de Burkinabés, de Guinéens qui viennent régulièrement au Gabon. Parce que ça, c'est ancien, c'est voilà. Donc, et je vous rappelle en passant que le village a été créé en 1883 par le Cheikh Boukounta, le grand Cheikh Boukounta, qui est décédé le 13 juillet 1914. D'abord, il s'est ouvert aux politiques. Parce qu'un khilafa ne peut pas marcher seul sans l'apport de l'État. Il y a des choses sérieuses. Regardez, en termes d'infrastructures routières, un khalif ne peut pas se payer le luxe de faire des routes. En termes même de diplomatie, parce qu'un khilafa s'ouvre, il faut des parcours diplomatiques pour contourner les visas, pour aller vers les disciples. Parce que dans la diaspora, il y a toutes les confréries. Bien l'équipement. Savez-vous que, écoute, nous sommes un ministère sans administration et il fallait faire une maison des autres, la résidence du calife. On a passé un peu l'administration. Et le président Ouad nous a aidé à le faire pour, dans les prévisions, ça tournait autour d'un milliard. Avec des bureaux, des appartements, une petite télévision communautaire, une radio, surtout une bibliothèque. Parce que les Kunta ont beaucoup écrit. Surtout, je le cite, notre grand-père, Cheikh Sidi Mokhtar Al-Kunti, il est célèbre. Pour ses écrits sur tout, sur l'astronomie, sur l'histoire, sur la géographie. C'est une des références. Et ce qui est important, les autres le reconnaissent en tant que grand cheikh. Ils l'appellent Cheikh Chouri, le cheikh des cheikhs. Et ça, c'est l'unanimité. Bien, il fallait faire un dara. Parce que quand on parle de tariqa, il faut une formation. Un khad, il est formé quand il est petit, pour avoir une culture de khadria. Donc d'école, de dara, disons, il faut équiper le village. Regardez, ça fait des milliers de pèlerins qui viennent pour une nuit. Où est-ce qu'il faut organiser les cérémonies? Il faut vraiment embellir. Nous avons notre mausolée. Le fondateur, il est enterré au centre du village. Je pense qu'on l'avait un peu négligé, mais on est en train de faire le mausolée. C'est important. Et tout de suite, ça frappe. Les disciples Kunta, enfin vous êtes en train de faire le mausolée. Si le cheikh, celui qui est entré là, c'est content, mais il y aura la prospérité au niveau du khilafa. Les gens fonctionnent comme ça, c'est une culture populaire. Mais surtout un symbole, nous n'avons pas encore de grande mosquée. Mais nous allons la faire, ça c'est sûr. Une vraie mosquée khadria, comme celle des Mourides, celle des Tidjanes. Parce que jusqu'ici aussi, par modestie, on ne faisait pas. On n'était pas tellement visible, mais on aimerait faire cette mosquée-là. Mais nous sommes dit, on n'attend pas l'État pour faire des mosquées. C'est une affaire privée de foi. Est-ce que nous khadr avec les autres musulmans? Parce que les gens, quand vous reprouvez que vous êtes sérieux, mais ils viennent, ils réagissent, des individus, etc. Ils aiment faire des mosquées. Nous avons les plans, nous allons vraiment réaliser les fondations en attendant que les autres viennent. Parce qu'on se dit, quand même, il faut compter en commençant par soi. Il ne faut pas attendre tout une mosquée créée en main comme ça. Nous sommes en train de la faire. On a identifié la place parce que j'ai fait un sondage avec le Khalif m'a demandé Ils disent, où est-ce que vous voulez votre mosquée? Parce qu'on avait choisi un endroit, mais qui était un peu isolé. Voilà. On revient au centre du village. Voilà. Et à 99% des gens ont dit, il faut ramener ça. Parce qu'ils pensent un peu à un complexe mausolée, mosquée, et aussi abri des palais là où on organise ces cérémonies. Dans ce cas, vraiment, il y a de grands progrès. L'État nous a aidé à faire l'abri, on est en train de le faire. Le mausolée, c'était nous, sous forme de colonisation, mais il y a des bonnes volontés qui ont participé. Si vous passez, vous allez voir que tout le monde est content pratiquement. Il y a maintenant un marché malien. Je ne sais pas pourquoi, sur le plan économique, les Maliens, et les femmes surtout maliennes, viennent vendre leur tissu de tchou ici. Ils ne le font pas à Touba, ils ne le font pas à Tchou. Le tchou, ce tissu-là, se vend mieux à Niassankaya. Et pourtant, c'est les mêmes commerçants qui sont à la gare. Mais quand ils viennent, ils vous disent, le Sénégal, c'est le vrai tchou, c'est le tchou de Niassan. Oui. Ils se déplacent les week-ends pour faire le reste. Le marché, il est là souvent pour au moins sacrer des désagréments. C'est vrai parce que la proximité, l'hygiène, il reste, c'est la sécurité, la chaîne est là parce qu'il vient du mal. Mais là, c'est bien installé. Peut-être on pense à faire une foire, un jour, une foire de tissu, d'art africain, etc. Vraiment, nous avons, je l'aide dans ce sens-là, à avoir un tableau de bord et à peut-être théoriser, mais aussi à aller voir l'aspect pratique. Et pour marquer ce qu'il a fait là, il tient beaucoup à cela. Il me dit, Mohamed, je dois marquer mon qu'il a fait. D'abord, il n'y a pas eu de rupture, j'avais peur que les choses baisse, mais au contraire, j'ai maintenu le niveau, j'ai même un peu élevé par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire que mes oncles n'ont pas bien travaillé, ou mon père n'a pas bien travaillé, mais ça veut dire que nous suivons un peu le cours de l'histoire et des progrès. Et je vous assure, un calife, mais c'est très sérieux, un calife, parce qu'il est interpellé tout le temps par des politiques qui, eux, ont des conseillers, qui, eux, ont été dans les grandes universités. Lui, il n'a pas le temps, il a fait le Dara. Donc, si on l'interprète sur les questions économiques, mais ce n'est pas bien préparé, il passe à côté. Donc, on a voulu aussi ce mythe-là, conserver cela, l'image du calife, qu'il ne s'implique pas trop dans des choses qu'il ne maîtrise pas, son image. Parce que les Sénégalais, ils pensent qu'un calife ne doit pas être très proche du régime. Parce que ça crée des problèmes. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi il est allé saluer le président? Pourquoi il est venu le voir? Pourquoi il a dit merci? Même un petit merci. Il n'avait pas le droit de le dire. C'est le calife de tout le monde. Tout le monde n'est pas du même côté politique, etc. Donc, c'est des sensibilités qu'il faut gérer. Il sait les gérer.
Oui.
Il est très ouvert. Et aussi, il a beaucoup fait pour l'alliance des familles. Sa seconde épouse, Amine Tambake, ma tante, est la fille du fils aîné de Seigne Touba. La tante à mon père, ma grand-mère, était l'épouse de Seigne Babacar Sy. Il y a une maison à Théon qui s'appelle Niassan. Et mes demi-frères, leur mère, c'est les gens de Touba. Vous voyez ce qu'elle a fait, ce que les autres n'ont pas fait. Et cette alliance existe. Aujourd'hui, quand il y a un débat, quand ils veulent échanger, ils appellent le porte-parole du Khalif de Tiyan, Hassani Abdelaziz Al-Amin. Mais quel avis vous avez? En tout cas, nous, on est là, on vous écoute. Pas de division. Voilà. Et savez-vous que ça, c'est extrêmement important au niveau du talib. Au niveau supérieur, il n'y a pas de problème. Ça marche. Mais le talib est moins, il ne comprend pas. Il va avec des comparaisons. Mon marabout, c'est le meilleur. Etc., etc. Et ça, si souvent ces messages-là passent, on a dit faites attention, la paix, quand il y a des dérapages, tout de suite, les khalifs réagissent. C'est des sapeurs-pompiers. Et ça, c'est socialement, ils sont sapeurs-pompiers. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous, on est voisins directs de Théon. Maintenant, on est juste à côté. Hein?
Oui.
Mais on n'aimerait pas être un quartier de Théon.
Oui.
Au nom de la Khadiria, au nom de la spécificité de notre conflit, on ne peut pas. C'est pourquoi souvent il y a des doublons. On fait des choses actuelles, on peut aller même en hôpital, mais souvent il y a ça, essayez de dire, faites-nous notre hôpital à nous.
Oui.
Voilà. Des écoles, on a dit, nous aussi on a besoin d'un lycée, et pourtant le lycée est là. Des choses comme ça. Mais ça c'est tout à fait normal. Parce que c'est une question d'abord d'appartenance, et puis maintenant les alliances vont venir après. C'est extrêmement. Donc vraiment. Si vous faites un sondage, il a fait pas mal de choses en 8 ans, 9 ans. Je pense qu'il a eu, comme on le dit, la baraka ou quand même la chance. Les autres l'ont fait, mais dans le domaine de la foi peut-être, dans le domaine du rassemblement, l'ouverture c'est ça. Mais l'État a beaucoup aidé. Par exemple, à chaque gamme, on distribue à peu près 200 tonnes de riz. Mais maintenant, avec l'ordinateur, on n'oublie personne. C'est pour aider les gens à accueillir. C'est un petit village, c'est pas comme Touba, c'est pas comme Thion, qui sont presque des communes. Mais nous, on n'est même pas communauté rurale. Donc, c'est assez autonome comme village, mais quand même, qui sensibilise aux problèmes. Et les problèmes, c'est l'eau, les problèmes, c'est l'électricité, c'est aussi l'aide aux denrées alimentaires, c'est la modélisation, parce que quand les gens voient qu'il y a une nouvelle route, tout le monde est content. Parce qu'il y a 20 ans, il y a 10 ans, on n'avait pas tout cela. Et tout ça, maintenant, c'est très technique. On parle de ça entre les mains de quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Voilà. Donc, vous voyez, ce sommet-là aussi, il est assisté. Il est assisté par son fils, mais par une équipe. Et ça, c'est extrêmement important. Ses voyages, il est vieux, mais vraiment, il se déplace. Il va vers Dakar, il assiste les talibés, ça c'est nouveau. Il va voir des malades, et quand il y a des événements, il se déplace. Même les petits bâtiments, je lui ai interdit de. Je lui ai dit, mais il faut déléguer un peu. Il dit, non, Mohamed, quand j'ai le temps, quand je peux le faire, je le fais. Actuellement, vraiment, il faut dire, il est vieux, il a 91 ans. Donc physiquement, il est faible. Mais intellectuellement, il n'a pas peur de la mémoire. En tout cas, il a une mémoire plus vive que la mienne. Pourquoi? Parce qu'en 1943, quand j'ai vu un tel, il était en boubou blanc, etc. Moi, je ne connais pas le numéro de ma voiture. donc, oui. Il est très chaleureux, hospitalier. Et il nous envoie vers ça. Prenez, il faut que les gens viennent montrer un peu le patrimoine des Kunta, faire connaître les Kunta. Parce que sinon, nous sommes dans nos coins, on ne sait pas quelle identité souvent. Pour les tourmentes, et il faut parfois utiliser la communication. Ce qui est en train d'être fait. Ça. Donc, vraiment, pour les butins, Diassan s'est modernisé. Mais bon, il reste des choses à faire. Moi, je suis le responsable des chantiers, je coordonne un peu ça. Mais on voit encore plus loin. Nous avons fait la première étape. Le début était difficile, mais aujourd'hui, il y a un rodage, tout est un peu, on sait qui fait quoi, etc. Bon, son rôle aussi s'est simplifié. Il a des relations normales avec les politiques et l'État. C'est important. C'est important.
Oui. Parmi le projet que vous avez mentionné, je veux tout simplement souligner que le Malien aussi m'ont parlé de ce marché permanent. Justement. Parce que vraiment, ça leur tient à cœur.
Mais sans le marché, il n'y a pas de gamme. Il y a eu des petits problèmes parce qu'il fallait aussi déplacer le marché. Il y a eu des résistances. Parce que le marché était accolé au Mouzelé.
Oui.
Et il y avait de. Parce que souvent, quand il n'y a pas de toilettes, ils sont un peu poussés à faire ça sur place, à Creusa. Et ça nous avait choqués. Monsieur Jimé, le bavardage, les cris, les querelles, les bagarres autour de Mouzelé.
Oui.
Et il y a quelqu'un qui avait un rêve, le fondateur, qui dit mais. Vraiment, déplacez-moi ce marché-là. Ça, c'est gênant. Mais c'est un rêve. Hein? Bon. Et moi, ça m'a donné le courage à dire, mais quand même, on va vers le parking. Plus tard, on ira vers une foire. Et ils l'ont fait depuis 50 ans, donc c'était un peu difficile de déménager ce marché-là. Et le calife, à un certain moment, il m'a appuyé, mais à un certain moment, il a dit, non, arrête. Tout ça, ça va faire des histoires. On va dire que c'est, le marché-là, c'est moi, j'ai créé des problèmes. J'ai dit, non, il faut le faire. On ne peut pas faire d'omelette sans catégorie. J'ai dit que vous avez fait le lotissement du village. C'est lui. Il n'était pas calife. Mais c'est lui qui a fait ce petit lotissement-là. Sinon, Diassan était entassé autour de l'état des islamistes. Mais aujourd'hui, regardez. Et quand il a fait le lotissement, il n'a pas pris les bonnes parcelles. Il dit, moi, je vais vers toi. Ici, c'était les greniers. C'était un champ. Donc, il a donné l'exemple en faisant cette maison-là. Mais ils pouvaient prendre, dégager des gens, mais ça passait. Ça ne passait pas. Ils ont dit, oui, écoutez, ils ont fait des lotissements, ils ont fait partir des gens pour prendre leur maison. Ça, il a dit. Et je lui ai dit, moi, je ne vous embarque pas. Parce que vous avez fait l'alignement du village en petite concession, les rues. Moi aussi, je vais déplacer le marché. C'était pas facile. Hein? On m'en voulait. Voilà. Parce que les gens vendaient le mètre carré à 25 000, 50 000 autour d'un espace, autour de la mosquée, autour du mausolée. Et moi, j'ai fait le tour du monde. Je n'ai jamais vu un mausolée envoyé par un marché. Donc, j'ai vu ce pari-là. Je les ai amenés. Avec l'aide de l'État, on a eu des bâches qui n'étaient pas distribuées au marché, mais j'ai un peu forcé. Une cinquantaine. Ça fait 300 commerçants. On s'est installé au parking. Ça fait étoile. Mais aussi, il fallait commercialiser les places. en disant on va de peut-être de 60 000 à 33 000.
Mm-hmm.
Bon,
mm-hmm.
Mais la bâche, c'est 6 places, donc ça fait à peu près 200 000. Les gens ont dit non, 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 une bâche à 200 000. Non, ils ont vu la bâche, mais ils n'ont pas vu la place.
Mm-hmm.
Et ça, c'est aussi, écoutez, la presse a fait écho, mais ce n'était pas ça. Nous ne sommes pas une commune rurale. Nous ne sommes pas une commune. Nous sommes un gros village dans une commune. C'est vraiment qui pèse, ça, c'est sûr. Donc, on a voulu faire nos propres investissements. La mosquée, par exemple, il fallait faire le carrelage, il fallait acheter des tapis, un aspirateur, le mausolée, il fallait faire des carreaux. Et les carreaux, le mercat, c'est 8 000 francs. Ça tournait autour de 5 millions. Et tout ça, il n'y a pas quelqu'un pour le faire. Donc, il faut partir de ça, faire garder les plus-values par chaque année, jusqu'à 5 millions et investir avec un comité de gestion du patrimoine des magasins. Le problème qu'il y a, c'est le foncier. Il l'a réglé aussi, ça, je veux. Le foncier, c'est très délicat. Parce qu'avant, c'était des chambres là, c'était des chambres appartenant à toute la famille. Mais le Khalif, dans une période, a dit non, avant de parler des chambres, parlons d'habitation. Il faut que les gens aient leur parcelle, etc. Avant, on vous donnait la parcelle, il n'y avait pas de papier. Il n'y avait pas de titre de propriété. Nous, on a essayé de faire ça. Quand on donne la parcelle, on matérialise ça en disant vous êtes propriétaire, ou bien vous êtes responsable des peines sur le. Bon, savez-vous que c'est un titre foncier de 1902. Voilà. Contrairement aux autres, c'est un titre foncier général de 1902, de 357 hectares. 1902. Donc, vraiment. Bravo à Cheikh Boukounta qui déjà en 1902 pensait à nous laisser un patrimoine foncier. Moi, actuellement, je suis universitaire, je ne sais pas comment on fait un titre foncier. Je vous assure, je ne connais pas la démarche. J'ai une maison à Dakar, on m'a donné mon papier, je dis, ah, ça c'est un titre foncier. Ça veut dire que vraiment, je ne suis pas testé. Lui, il dit, ah, je pense que ça va progresser.
Oui.
Je lui fais au moins ce patrimoine-là. Et ce n'était pas facile. Pourquoi il l'a fait? Parce que peut-être il pense à l'évolution des choses. Parce qu'il venait de l'âme. C'était un mauve, un milieu wolof, un peu riche, il était très mal vu. Il est arrivé d'ailleurs au début qu'on incendie ses concessions en herbe, parce que c'était pas bâti, c'était des wolofs autour de mais ce nard-là, ce mauve qui vient, qui débarque, qui est civilisé, qu'est-ce qu'il fait ici? Il ne connaissait pas la Khadria, etc. Mais il s'est imposé, c'était un homme pacifique. Il s'est imposé par la prière. C'est pourquoi d'ailleurs, essentiellement, il n'y a pas beaucoup de wolof khadr. Sauf chez les Fadiliya, parce qu'il y a deux branches khadriya. Il y a les Fadiliya, mais eux, ils sont de Mauritanie, à Nimzal, la capitale de Nimzal. Ils viennent chercher des disciples. Mais nous, comme autochtones, comme Sénégalais, il y a ça, la capitale de la khadriya. C'est sûr. Donc, il s'est imposé. Et c'est des Maliens. Ils sont venus par le chemin de fer, même parfois avec des touffes, parce que c'était des animistes. Et ils sont venus pour voir Cheikh Boukounta. Ils l'ont vu en rêve. Il n'est jamais allé au Mali. Les gens ont dit l'étoile qui est du nord là, mais qu'est-ce qui se passe? Et Cheikh Boukounta. Et il y a un quartier qui s'appelle Bambara. Et eux, ils connaissent leur ancêtre. Ils vont vous dire mon arrière-grand-père, il a marché de Ségou. Et quand ils étaient venus, ils étaient très bien hébergés. Et puis, ils conservaient le coutume, ils continuaient à parler Bambara. Et tout de suite, ils se convertissaient à l'islam. Mais, et d'ailleurs, on les appelle c'était des animistes. Et Cheikh vous disait, eux, quand ils épousent l'islam, ils sont sincères. Contrairement au Wolof. Il y a des intérêts. Eux, un Bambara, un Lakkat, quand il intègre, mais il est entier. Il est entier, il n'a pas de problème. Et c'est eux qui l'ont aidé à développer l'agriculture. C'est des gens très, très disciplinés par rapport à ça. Il y avait même des corvées, parce qu'il y a Baliga, c'était les champs. Ils marchaient, ils coupaient les arbres, etc. Il leur avait même de porter des pierres pour construire les bâtiments. Et même construire des bâtiments pour les théâtres. C'est arrivé. C'était des Mossi, c'était des Bambara, des Djoula. Ça dépend un peu des origines. Et même des peuls du Masséna. C'est sûr. Donc pour revenir à notre Khilafa, il est le sixième, mais c'est le premier petit-fils à occuper cela. Et c'était une génération. À Touba, il y avait Sine Manso. À Touba, il y avait Sine Kara. Ils avaient le même âge. C'était des gens qui sont nés entre 22 et 25. Mon père, il est de 25. Mais vraiment, il faut lui cette culture, cette ouverture. cette compréhension des choses. Mais vraiment, ça l'a un peu aidé. Parce qu'il a, il les a fréquentés. Il avait un modèle chez les Mouris, c'était Serigne Cheikh Mbacké. D'ailleurs, qui lui a donné sa sœur en mariage. Mm-hmm. Lui aussi, très tôt, il a compris les choses. Mm-hmm. Il s'est fait grand commerçant. Mm-hmm. Il a modernisé. Je donne un exemple à toi, on dit non, il ne faut pas faire d'étage, c'est interdit. Parce que du fait que le fondateur il est en bas, on l'a entré, pourquoi être au-dessus de lui. Mais il a dit, mais non, ça c'est n'importe quoi. La structure, c'est, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui était là, qui était un petit très moderne. À un moment même, on a pensé qu'il était le calife. Tellement il avait une forte personne. Celui-là, il l'a côtoyé, c'est des cousins de par leur mère. C'est là où il y a l'alliance entre les damels et les marabouts. D'ailleurs, quelqu'un avec les princes.
Oui,
c'est un peu ça. Mon père, il est du côté de sa mère, c'est un descendant de l'Adior. Ils ne le disent pas suffisamment. L'autre aussi, du côté de sa mère, c'était un descendant de l'Adior. Et comme on l'a dit, c'est des tchèdos. Mais quand un tchèdo comme le Bambara, quand il s'engage, il s'engage. Quand il épouse, ils sont entiers. Il n'y a pas de demi-mesure. Voilà. Donc voilà pour un peu pour le bilan, son bilan.
Oui.
Vraiment, on peut dire que c'est positif.
Oui.
Il y a eu de grands pas. Il y a la paix.
Oui.
Hein? Les gens sentent que on devient moderne quand même, il faut le dire.
Oui.
On devient moderne par la gestion. Il y a des papiers maintenant pour des titres fonciers. Il y a un plan du village. Le plan de développement, quand il y a des réunions par rapport à Diassane, on développe les sujets, il y a des extensions de l'eau, etc. Tout ça, ça n'existait pas. Le foncier, maintenant, on sait, on va de quel côté, qu'est-ce qu'il faut éviter. Mettre des rues assez larges en disant quand même, il n'y a pas un habitat sauvage, il faut l'éviter. Moi, je pense que c'est dans ce sens-là qu'on a vraiment.
Oui.
Et aujourd'hui, c'est le calife de tous les Kountas. Parce que souvent, quand celui qui est à Nantes est plus âgé, Nantes devient autonome.
Oui,
le calife devient le calife de
Nantes.
Mais quand lui, il est plus âgé, il est le calife de Nantes et de Diassane. C'est arrivé. Donc maintenant, c'est le responsable suprême de la Khadriya, Kountiyou. Ça arrive rarement. C'est arrivé dans le soir, c'est la troisième fois.
D'accord.
C'est la troisième fois.
Oui. Voilà. Oui. Vous disiez tout à l'heure que vous souhaitez que Diassane ait son propre lycée. Comment a Diassane évolué dans le domaine de la formation professionnelle et de l'éducation plus générale?
Ah oui.
Et est-ce que votre famille et le calife y jouent un rôle, n'est-ce pas, dans cette développée de l'éducation en le sens large?
Ah oui, moi je suis enseignant de formation. J'ai été instituteur, professeur de collège, professeur de lycée, professeur d'université. Et j'ai tout le cursus. Non, ils vont me déranger. Ah, André? Qu'est-ce que tu disais encore?
Tu parlais de... Tu es enseignant, tu as commencé par instituteur.
Voilà. Donc j'ai fait tout, je suis un enseignant. Mm-hmm. Donc ma préoccupation c'était de doter Diassane d'école. Ils étaient très réticents. L'école de type occidental, ils étaient très réticents. Il a fallu la formation d'un de mes oncles, on a le même âge, qui a été instruit de Tiaïaï. Mais j'ai dit, mais pourquoi pas Diassane?
Mm-hmm.
Le calife, en ce moment, l'autre calife n'était pas très ouvert, mais on l'a un peu poussé à accepter ça, parce qu'il y avait un contact qui devait enseigner.
Mm-hmm.
Ça, il l'a pas accepté.
Mm-hmm.
Bon, parce qu'ils disent, oui, l'école de type occidental, l'école française détruit les mœurs, et puis ça vous éloigne de la religion, etc. Mais il n'y a pas de classe. On a utilisé les locaux de l'étage, pour prendre les premiers élèves. Finalement, rapidement, on a poussé pour qu'on fasse une école. Il y a même un problème de localisation de l'école. Comme nous l'avons fait, il a accompagné les premières générations. Le collège, c'est un effort personnel que j'avais, les relations personnelles que j'avais avec Moustapha Soran. Parce que ma tante là, c'est la tante de Moustapha Soran, c'est la petite-sœur de Moustapha Soran. Donc cette alliance-là, ça m'a beaucoup aidé à dire, mais on fait un collège. Parce que les gens allaient au collège de Tiaon, surtout les filles abandonnées. Parce qu'il n'y avait pas de tuteur. Il restait toute la journée sous les arbres sans manger, etc. Et ça, ça a fait des dégâts parce que les filles étaient les premières à abandonner. Et j'ai dit que c'était dommage, la scolarisation des filles. Parce que je connais ça un peu, mieux que les autres. J'ai dit, il faut. Il me dit non, cherche-moi un terrain, mais je vais vous faire collège à main, clé à main, collège clé à main. Ce qu'il a fait, je suis allé voir l'expérimentateur, on a localisé le collège. Et c'est un très grand collège. Parce que, tout simplement, on a 3 hectares. Si on devait faire un lycée, on allait graduer seulement, aller de la 3e à la seconde, etc., et aller jusqu'au bout. Donc le problème d'espace ne se pose plus. Mais le lycée de Thion est là. Il est plus proche de Ndiassar qu'ailleurs. On voulait le mettre sur la route de Mboro. J'ai convaincu discrètement le ministre à mettre ça du côté de Ndiassar. Parce que si on le dit haut, mais il peut créer des blocages. Pourquoi Ndiassar? Ça va créer aussi. Mais ici, les gens restent jusqu'à moins 5. Ils partent au lycée. Les gens de Thion, il y en a qui se déplacent en bus pour aller au lycée. Je vous assure, il y a eu cette coordination entre le collège et le lycée, et ça fait du bien. Aujourd'hui, nous avons des bacheliers, nous avons des élèves de Ndiassar qui sont devenus étudiants. Donc oui, on le sent même sur le banc, des idées. Il y a une association d'étudiants, d'élèves de Ndiassar, ils organisent des conférences, ils convoquent, ils invitent des sociologues comme Tibidjakadé. Et ça fait bouger. Et moi, je suis un peu derrière. Je dis, mais il ne faut pas que vous fassiez seulement des conférences de religion, mais de temps en temps, une ouverture. Bon, l'informatique aidant un peu, c'est des gens qui vont aussi à l'université de Thiès. C'est vrai, c'est pas très bien diversifié, mais ils vont à Saint-Louis, ils vont à Dakar. Ça fait un peu du progrès par rapport à ça. Donc, sur le plan de l'éducation, il y a un boom, ça, il faut le dire. Voilà, on peut, il y a la quasi-tout, on peut faire cadre de produit jusqu'en terminale. Bon, maintenant le propre lycée, moi si je parle de propre lycée, c'est faire autre chose, un lycée technique. Parce que vous n'avez pas de formation professionnelle. Jusqu'ici, c'est théorique. On a un bac L', L2, pour savoir faire. Bon, mais si on avait un peu un volet technique à Ndiassar, un bac G par exemple, comptabilité gestion, un bac agroalimentaire, pour le manioc, les champs, un bac d'électricité. Voilà, en rapport avec peut-être le Dara Moren. Parce qu'on on a fait un Dara Moren de 100 millions, mais il n'y a pas de loi. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Les locaux sont prêts. Moi, j'ai installé un bureau. Parce que pour ça. Mais on ne sait pas ce qu'il faut faire. Or, l'idée, c'était de dire, chez les marabouts, les gens ne veulent pas aller à l'école, que les gens, l'école de tout occidental, mais il faut un peu, peut-être, associer la formation professionnelle, l'enseignement des langues, et les gens étaient d'accord. Parce que il est arrivé dans la région du Bec qu'on ferme des écoles pour faire des daras. Parce que tout simplement, non, ça influe un peu sur la formation de nos futurs disciples, etc. Il y a une année, c'était 52 classes. Hein, et le khalif les avait rachetés. Ils ne l'ont pas boycotté, mais ils ont racheté pour en faire des petits magasins, parfois aussi une école. Parce qu'ils ont le schéma. Ce n'est pas l'école moderne, machin, le tabac. Ils disent non. Apprendre, c'est un peu aussi souffrir. C'est lié à l'agriculture. C'est lié à une formation, à l'endurance, au travail manuel. Et ils se disent aussi, mais écoute, le Coran, d'accord, c'est pour tout le monde. Mais aussi, nous avons une spécificité, les Khasaïs, ces petits poèmes de ce monde, qui encouragent, qui font. Dans la formation de, je le dis en parenthèse, j'ouvre une parenthèse, à l'économie, moi je suis psychopédagogue. Mais je dis toujours à mes étudiants un grand principe, parce que je dis, il y a 10 principes pour enseigner. Il y a un principe, le principe du milieu. Je dis, adaptez-vous à votre milieu. Je ne sais pas, on vous sort de l'économie, on vous envoie à Touba. Ou en tout cas plus précisément à Mbacké. Si vous ne prenez pas en considération le mouridisme, vous échouez dans votre enseignement. L'enseignement, ce n'est pas que de la craie, ce n'est pas que des leçons, ce n'est pas que des exercices, mais l'environnement total. Je dis, comment appliquer le principe du milieu? C'est-à-dire, montrer aux jeunes mourides que le cher a dit qu'il faut travailler, qu'il faut respecter le maître, qu'il faut véritablement transpirer. Si vous voulez faire dans ce sens-là, ça. Mais Si vous exigez en intellectuel, en voulant faire une évolution là-bas, vous allez partir. Les gens vont se liguer pour dire, cet enseignant, il est contre notre chef. Ils vont vous tabasser, ou bien ils vont aller vers les rayons pour vous dénoncer. C'est le principe du milieu. J'ai dit de la même manière, quand on envoie un enseignant à Pokongin, un milieu chrétien, il doit pouvoir regarder les valeurs chrétiennes, les observer, aller vers l'évêque, aller vers lui. C'est ça le Sénégal. Maintenant, si vous dirigez en disant, oui, moi je suis un savant, je viens de la coronale, machin, on va faire une révolution, n'acceptez pas ça, c'est des idées. Et ça, vous le faites, vous échouez. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe du milieu. Il faut l'intégrer. Qu'est-ce qu'il faut enseigner dans tel milieu? Comment on respecte cela pour que les populations vous acceptent? Il est arrivé que les populations se soulèvent en disant l'inspecteur doit partir, tel enseignant doit partir, parce qu'il est en train de déformer nos enfants, etc. Ça, je l'enseigne, et j'insiste beaucoup sur le principe du milieu. Par exemple, M. Faye, il a beaucoup appliqué le principe du milieu. Il dit, mais qu'est-ce qu'un Kunta? Qu'est-ce que la Khadiria? Comment le calife est choisi? Si vous voulez arriver le sixième, et si vous progressez, mais ils vont comprendre beaucoup de choses. Changer les choses de l'intérieur. En disant, avec la science, avec ce que vous connaissez, si vous élevez un adversaire de Moulit ou de Khad, mais ça ne marche pas. Si vous tenez des propos contre la confrérie, ou bien en tout cas la confrérie, mais ça pose des problèmes. Donc voilà, on peut. Il y a beaucoup de progrès sur le plan de l'éducation et de la formation. Maintenant, il reste à faire. Faire de la formation prochaine dans les darons. Parce que s'ils ne font que le Coran, c'est bien beau. Mais ils vont faire maintenant de la littérature, la langue, ça prend des années. S'il faut aller maintenant faire un métier pour être père de famille, ça va prendre, il restera 10 ans pour aller à la retraite. Donc on peut faire des choses ensemble, raccourcir les délais d'apprentissage, parce que ça existe. Utiliser un peu ces outils. Pour les nouvelles technologies pour l'apprentissage.
C'est possible. Toujours dans le domaine de l'évolution de Nchassan, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouvelles constructions un peu partout, n'est-ce pas? Je me suis promenée avec Fatoumata Fall, Koulibaly, et j'ai remarqué partout il y a de nouvelles concessions. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Parce que moi, je peux me faire une idée, mais vous
c'est vrai. Ça montre qu'aussi, il y a une part de prospérité. Les gens reviennent investir à Niassan. Celui qui veut aller à Dakar, à Kermassar, acheter une maison, un terrain à 10 millions, il dit, mais je vais à Niassan, avec 1 million, j'ai mon terrain. Il sera un peu plus grand, et je suis à 2 heures de Dakar. Et les gens donc reviennent, parce que seulement, on leur a offert sur assiette ce qu'il y a à faire. Il y a des routes. Les parcelles sont sécurisées. Vous avez un papier, vous avez un titre. Et je dis, autant amener ma famille à Niassan que de laisser cette famille à Dakar avec de la location, etc. Les gens vont dire aussi, Niassan plutôt que Taouane. Pourquoi? Parce qu'actuellement, le terrain coûte cher, c'est 5 millions. Ils vont dire, mais Niassan déjà, c'est pas tellement urbain. On va là-bas, on peut avoir 400 mètres carrés à 1 million, 2 millions. Si c'est actuellement, mais c'est un peu plus cher. Donc, autant prendre 5 millions, avoir ma parcelle et construire. Et construire de façon vraie. Autre chose, les ouvriers de Niassan, ils sont dans le bâtiment. Entrez.
Allô, patron. Comment ça va? On a commencé l'interview.
Qu'est-ce que je disais encore?
Donc, on parlait de l'extension, les nouvelles constructions.
Justement, vraiment, il y a une sorte de contrainte pour faire mieux. Je me rappelle, il y a une dizaine, au début du Khilafa, il y a un des maisons qui voulait me conseiller, mais il est un peu dépassé. Il me dit non, mais il ne faut pas faire de nouvelles constructions. Il faut faire des khaïmas. Les maisons, les tables de mort là. C'est un peu original, j'ai dit, quel retard! Vous voulez nous faire retourner à la vie? Parce qu'il dit, non, ça va avec même la baraka, avec les prières, parce que le béton là, avec partout, etc. C'est pas. J'ai dit, non, ça, il y a un point de non-retour. Nous, si vous allez à la mer, vous allez trouver de très belles maisons. vous allez trouver des choses en or. Mais nous aussi, je pense qu'il faut qu'on aille dans le pays. On ne sera jamais en retard pour être, dire, oui, le village où il n'y a que des tentes. Non, 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 nous, on va moderniser, on fera mieux. Qualité et plus quantité. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. C'est dans ce sens-là. Vous l'avez vraiment vous-même constaté, ça veut dire qu'il y a des progrès. Mm-hmm. Avant, il n'y avait pas de parcelles, il n'y avait pas de plan de développement. Vous avez quelqu'un qui est venu me saluer tout de suite. Je suis sûr que, je demande un rendez-vous, c'est sûr qu'il va aller, je vais acheter, est-ce que c'est sûr, mm-hmm. est-ce que vous n'avez pas de terrain disponible, etc. Oui, ça se développe. Les gens déjà viennent pour avoir le petit exemple, mais les gens derrière disent non. Quand vous avez une maison à Ndiassan, vous avez Ndiassan, vous avez Tiaoul, vous avez Pire. Ouais. À part d'Ndiassan, vous avez plus vite vers Touba et vers Saint-Louis. Mm-hmm. Autant avoir une maison là-bas. Ouais. Ça va coûter moins cher. Mm-hmm. Et il y a de bons ouvriers ici. Mm-hmm. Et chaque fois qu'il y a un chantier, je demande à l'entrepreneur de recruter les gens à Ndiassan. Mm-hmm. Sauf des postes d'ingénieurs. Il n'y en a pas. Mm-hmm. Mais en tout cas, les chefs de chantier, mm-hmm. le contrôle du bâtiment, tout ça. Mm-hmm. On peut les trouver ici, même pour faire les briques. Les gens qui ne font que ça, ils font de la qualité. Et aussi, la main-d'œuvre n'est pas très, très chère. Voilà, ça c'est un peu ce boom-là. Et je vous remercie d'avoir constaté ça, d'avoir, avec l'aide de chercher, de dire, mais il y a une évolution. Parce que vous connaissez Ndiassan il y a 10 ans, vous êtes revenu, il y a des progrès. Et ça va continuer, Inch'Allah.
Ça, c'est sûr.
J'aimerais parler un peu du Gamo maintenant. Quelle est l'importance du Gamo pour la vie religieuse ainsi que pour les rapports sociaux dans la Tariya?
Effectivement, mais le Gamo est un événement majeur dans la vie de la contrée. Sans Gamo, certainement, on n'allait pas se voir. C'est des moments où tous les disciples se. La capitale, même sa place, c'est Ndiassan qui est un peu la capitale de l'islam, de la Tariq Khadija, c'est des mois très forts. D'abord, de rassemblement, le marché malien, qui est extrêmement important, qui n'est même plus un marché malien, mais un marché africain, parce que les Moors amènent aussi leur tissu, les Ivoiriens, ils amènent leur tissu. Donc, c'est un marché de tissu. Et d'art, parce qu'ils mettent des vases aussi en même temps, mais aussi de denrées, de tamarin. Le qualité, mais en nature. Et donc les gens viennent. Ça aussi, c'est pas mal. On a ça que le Gamo. Deuxièmement, la foule. Mais les gens, les pèlerins viennent. C'est des mois de rencontre. C'est des mois de rendez-vous par rapport à Ndiassan. Et c'est les seuls moments où, en tout cas, on nous écoute. Les rares moments où on nous écoute, on nous dit mais écoute, il y a une chère préfète. Le Gamo est là, nous sommes à 3 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, on a besoin de ceci, on veut équiper le village. On a des problèmes d'électricité, on a tel problème. Et on va au CRD, au niveau du gouvernement, on valide des choses. On va en réunion nationale chez le ministre de l'Intérieur. Et ça se termine à la présidence de la République, on valide des choses. Donc on attend le Gamo comme les paysans attendraient les premières pluies. Ah, c'est pas réglé, attendons le Gamo, hein, ça va se régler. Nous avons maintenant deux Gamo, le grand Gamo, qui va avec le Mawlout, la naissance du prophète. Et là aussi, c'est très symbolique. Tiaon célèbre le jour de la naissance, mais nous, le 8e jour, on baptise. Pourquoi on aurait pu faire ça le même. Oui. Mais les deux chers se sont vus, ils disent, mais oui, écoute-moi, c'est le jour même de la naissance, mais vous baptisez. Et d'ailleurs, comme on dit que les Kountas sont des descendants du prophète, on dit mais vous allez donner le baptême de votre grand-père. C'est une manière de dire. Hein. Quelqu'un qui était au 7e siècle, si on continue à faire son baptême, l'anniversaire de son baptême, vous voyez ce que ça fait. C'est des symboles très forts, c'est des manières de célébrer des choses. C'est le sens social de la fête. Les gens sont là pendant 2 ou 3 jours, ensemble. Le commerce, c'est vrai, mais le commerce, c'est aussi des hommes. C'est important. On échange, on célèbre. On va au cimetière, on va faire la ziyara, on va au mausolée. Il y a des ramènes pour ce mausolée-là, pour prier, le rapport avec les morts, mais aussi, surtout avec les vivants. Les grandes traditions, vous allez voir, Bekaï va recevoir sa famille du Mali, etc. C'est extrêmement important. Et tout le monde se prépare. Et on leur dit, vous recevez tout le monde, mais ouvrez vos portes. Et en disant, l'ouvre de la porte, ça commence par le visage. Accueillez tout le monde. C'est quelques heures. on vous donne les moyens, on vous donne parfois du riz, on vous donne de l'argent. C'est l'occasion aussi de faire des cadeaux, de parler des problèmes de famille. C'est là qu'on discute d'avoir un terrain. Est-ce qu'on peut avoir un terrain? Parce que ça, c'était les grands rassemblements, mais maintenant, individuellement, des gens un peu plus nantis ont dit, mais moi, je vais avoir ma propre maison. Je vais faire une belle maison à Yassa. Pourvu que je puisse avoir un papier pour sécuriser un peu cela. Mais vraiment, c'est un temps très fort, le Grand Gamou. Il y a un peu de Gamou à 15 jours du Ramadan, ce qu'on appelle Goudi Cherbou. C'est l'anniversaire du décès du fondateur. Là aussi, c'est des occasions. C'est un peu plus chaleureux parce que là il y a moins de monde et les gens sont dans les maisons, c'est entre parents, c'est un peu les gamins. Et vraiment, la fonction sociale de ce gamin là n'est plus à démontrer. Ça fait beaucoup de choses à la fois.
Et est-ce qu'il y a eu des changements dans l'organisation de Gamou depuis le temps que vous avez pu l'observer?
Oui. On a eu la chance de voir ce gamin pendant 30 ans. Avant, vraiment, c'était des rassemblements, c'était des repas. Mais la cérémonie, il n'y avait pas de cérémonie officielle. C'est pas mon père qui a inventé ça, c'est un peu ses oncles, et surtout son père. On aide le gouvernement. Ça aussi, c'est des temps forts, c'est des moments de visibilité pour le gouvernement, mais aussi pour la famille. C'était d'abord. C'était sans radio, ça se faisait, et les radios sont venues, et après maintenant la télévision. Et les images sont très fortes, elles sont parlantes. Le vendredi, on vous met, un mois après, on vous met les gamins, et tout le monde regarde, c'est bien organisé. Et maintenant, avec l'ouverture de la télévision, il y a toutes les télévisions, il y a le direct, c'est des moments vraiment où même dans le net, on laisse... pour la diaspora, etc. On va aller vers un site où on mettrait de la vidéo, des photos, l'histoire de la famille, etc. Mais je pense que on a fait des pas dans le domaine de la communication. D'abord, la cérémonie du soir, c'est politique. C'est une délégation ministérielle qui rencontre le calife. Il y a des échanges de propos, parfois même centrés sur l'actualité politique. Souvent, on met un parrain. Maintenant, le soir, c'est la veille religieuse. On parle de sujets vraiment religieux. Une sorte de table ronde où on dit maintenant, chacun prend 15 minutes. Et c'est des gens vraiment choisis parmi, dans la famille ou ailleurs pour parler des Kunta, pour parler de la Khadria, l'histoire de Birth, comment on devient Khad, les premiers califes. C'est des occasions. On a pensé même faire maintenant le message du calife. Une petite lettre qui vous rappelle que, etc. Il y a des choses tellement oubliées. On dit maintenant, écoutez, la zakat, les riches doivent aider les pauvres pour le dixième de leur richesse, etc. C'est des piliers de l'islam qu'on oublie. On va plus à la Mecque, on parle plus de foi, mais souvent les piliers, en disant, mais les riches ne nous aident pas souvent. Est-ce que l'État ne pourrait pas aider à ramasser, à collecter tout cela et à les dissoudre? Dans certains pays, ça existe. Voilà. On peut choisir sur le terrorisme. Mais souvent, d'ailleurs, les gens ont peur du mot, ils disent la paix. Mais souvent, ils disent, mais quelle paix, etc. On lance une formation sur la paix. Je dis, mais quelle où est le programme sur la paix? Mais écoutons, paix sociale ou la guerre ou quoi, c'est pas souvent très clair. Mais on sent le souci des gens, ce qui les inquiète, ce qu'ils veulent, ce qu'ils évitent, etc. Et je pense que l'existence des tarikhas, cette existence a beaucoup aidé pour avoir un islam très pacifique. La sunna, le message des califes, faites attention, aimez vos frères, faites cela. Je pense que ça fait bouger les choses dans le sens d'un équilibre social. En Djassan, ils ont peur de paix. Le calife a exhorté les fidèles à rester, à donner la main aux autres, qu'il n'y ait pas de bagarre, parce que, écoutez, la terreur, etc., le musulman qui réveille un peu cet esprit de belliqueux-là, mais voilà, il sera condamné par Dieu. Et ça, les gens font attention à cela. Voilà.
À part des Gamou, est-ce qu'il y a d'autres moyens pour renforcer le réseau des talibés?
Oui, Oui. Maintenant, ils ont les anciens califes, les familles des anciens califes. Parce que quand on dit calife général, mon père est calife général. Il doit y avoir des califes particuliers. Voilà. Dans l'armée, ça, il dit le chef d'état-major général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de la marine et de l'aviation. C'est un peu ce schéma-là. Il y a des familles, des califes qui ont été là. Ils sont déchirés, mais les familles existent. Il ne faut jamais les ignorer. Donc, ces gens-là aussi, ils ont une petite liberté d'organiser un peu la vie interne de leur famille. Ils deviennent des califes de famille. Mais le calife veille beaucoup sur eux. Donc, s'il y a des choses à distribuer ou à donner, il y a combien de familles, de califes de famille? Ils sont 5 ou 6, mais ils les convoquent. C'est une sorte de conseil restreint. Et ils leur parlent de vie de famille. C'est presque un gouvernement. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Faites attention, rappelez-vous. Vos disciples directs. Eux, ils ont des disciples directs. C'est différent des disciples en général de la famille. Donc chaque famille a aussi ses propres calibres. Bon, là, quand tu veux lancer un message, il le fait. Et ces gens-là font des anniversaires. Ça commence d'ailleurs à poser. Parce que chaque mois, on dit l'anniversaire du feu calife, premier calife, deuxième calife, troisième. Nous en sommes au sixième calife. Ça fait aussi des manifestations. Et aussi, ils se cotisent à l'interne. Ils font appel à d'autres. Et chacun ne veut pas être dernier. Là aussi, c'est des occasions de rassembler. Et quand vous êtes devant ce public-là, c'est des publics spécifiques. Vous n'allez parler que de ce calife-là. Qui est de ce... En bien, quand même. Et le calife se déplace. Ça le fatigue. Il dit, mais non, faut plus. Parce que tu vas faire 6 gamins. Petit gamin, mais ça va faire beaucoup de choses. Et même de plus en plus, ça s'élargit, la gendarmerie est convoquée, le préfet vient. Et ça anime.
Ouais.
Il y a un côté dépensier, c'est vrai, mais ça anime aussi. Ça ramène les gens. Voilà. Et au lieu d'accéder au grand calife, il accède, il passe par le calife de famille. C'est lui qui les conduit, etc. Et ce que je voulais dire, il croit plus. Chacun croit plus à son calife de famille qu'au calife général, qui est assez distant. Et ça concerne aussi c'est les amitiés, les alliances qu'il y avait, tout ça c'est extrêmement important. C'est une gestion de proximité. Or, chez le calife général, c'est un peu à distance. Les affaires générales, c'est lui. Parce qu'un ministre ne peut pas entrer en Niassan, aller voir un calife de famille sans passer par le calife. Ce serait vraiment très mal vu. Il y aurait même un rappel à Laurent. Mais le ministre, il ne passe pas par le calife général. Il y a qui comprennent, qui disent, ah, moi je passe, je dis bonjour à lui, mais je vais aller vers la maison, l'ancienne maison, etc. Bon, ce qui est aussi dommage, Maria, c'est pas dommage, mais souvent, quand un calife décède, la maison, les gens abandonnent cette maison. Ils vont vers le calife. Bon, sauf le noyau dur. Et ça m'a fait très mal. Le calife que mon père a remplacé, qui est mon beau-père, hein, parce que j'ai épousé sa fille, vous voyez, c'est un fun. Mais il a fait une résidence, hein, mais personne ne va maintenant. Personne. Maintenant, il a laissé son fils aîné qui est là. Quand les gens viennent, c'est pour aussi, sans le besoin d'organiser un anniversaire, pour voir la troupe. Pour contrôler, pour ça quelques cas aussi. Et parfois, aussi, quand c'est centralisé, l'État s'adresse plus au calife général qu'aux autres. Ah oui, parce que les gens disent, mais oui, on a intérêt à parler au calife général. Voilà. Le calife général, s'il ne fait pas attention aussi, s'il ne décentralise pas, s'il ne critique, mais il est critiqué. On dit, oui, mais il prend tout pour lui. Ouais. Bon, je donne un exemple. Du point de vue de la représentativité, moi, quand je vais dans une cérémonie, après le calife, on me présente. Pourtant, il y a mes oncles. Il y a les califes de famille. Ouais. Mais c'est frustrant aussi.
Ouais, c'est frustrant.
Et par modestie, je dis non. Ouais. Moi, je ne suis pas le vice-calife.
Très bien.
Le vice-calife, c'est le plus âgé après le calife. Il y a les califes de famille. Vous êtes mes oncles. Donc, ça, c'est, les gens le font comme ça. Je ne sais pas, par marketing, mais. Parfois, ça peut blesser. Si celui-là, il se prend pour une star, mais il veut prendre tout, ça capte la parole. Mais on dit, mais qui celui-là, il est arrogant, il est récalcitrant, pourquoi il se comporte comme ça? Il faut faire très attention parce que ça crée des frustrations. Mais c'est comme ça, les gens ne croient, après le calife, son fils aîné. Mm-hmm. Donc voilà, il est là, il est accompagné de son aîné. Hop, là, il y a une dizaine de gens, de califes, de petits califes, qui sont plus âgés, qui devaient être peut-être plus proches. Mais celui qui vient faire le prêtre, il ne le sait pas. Mm-hmm. Il dit, mais où est le calife? Il
ouais,
ah,
ouais.
Est-ce qu'il a un fils? Où est-il? Ah oui, c'est en plus, il est intellectuel. Donc, il peut s'exprimer en français, mm-hmm. en arabe, et avoir, donc, il devient un peu ce centre-là. Mais si c'est pas pour le centre du monde, c'est pas bon. De temps en temps, il faut donner. Ouais. Parfois, j'ai même une expérience, j'ai dit, ici, il faut nommer des califs du jour, des petits-fils de califs du jour, mm-hmm. des porte-parole du jour. Je dis, comment ça? Je dis, non, c'est pas le plus âgé, c'est pas le fils, c'est pas le sang. Mais dans, à chaque fois, vous prenez quelqu'un qui est spécial pour la question. Qui ne fait pas de la femme, vous lui donnez la parole. Pourquoi toujours le fils du calife? Non, c'est que si ça passe mieux, quoi. Si toi, tu parlais, tu arrivais à mettre un mot. Bon, maintenant, si quelqu'un ne prend pas assez de sa part, mm-hmm. mais il va avoir le monopole du pouvoir. Mm-hmm. Parce qu'aussi, il faut dire, tout est pouvoir.
Mm-hmm.
C'est pouvoir religieux. Mm-hmm. Voilà. De dire, je donne, on arrête, on ne fait pas ça. Mm-hmm. Oui. Parfois, ça crée des inimitiés pour le calife. Le calife n'est pas toujours aimé par sa position, surtout quand il travaille. S'il fait du bien, on est aussi, il se dit, ah non, notre père était là, il n'a pas fait beaucoup de choses. Il est en train de faire tout, il est en train de. C'est une bonne. On parle de lui. Or, c'est le développement des médias. Quelqu'un disait, la violence n'a pas changé, elle existait. Mais c'est surtout la médiatisation. Voilà. Mm-hmm. Il y a 50 ans, s'il y avait un crime ici, on reste 3 mois pour savoir qu'il y avait un crime.
Oui.
Mais aujourd'hui, à l'heure, on me dit, il y a un talibé qui a été égorgé à Thiès.
Oui.
Donc, elle était là, la violence.
Oui.
Mais c'est surtout la violence.
Oui.
Aussi, les phénomènes de Khilafa, c'est sur ça, les gens étaient dans les retraites, ils étaient là, ils vivaient bien. Maintenant, tout est... c'est même le cas qui a besoin de
oui.
Est-ce que la SS va venir? Bon, vous téléphonez au directeur de... Parfois, des sans formalité. Ailleurs, on dit, mais vous écrivez, vous faites une demande. Non, le cahier, ça passe. Il signe la partie. Il dit, non, donnez-moi le docteur là. Alors, docteur, j'ai un petit gamou là, il faut venir faire le reportage. Comme parfois c'est commercial aussi, et les tarikhas, les khalis sont exemptés de ça, ils ne payent pas. Voilà. Si un docteur essaie de mettre de l'ordre, mais il part. Hein. Parce qu'à la première occasion, il voit une présence.
Ouais.
Le docteur de la SS là, il n'est pas sérieux. Hein. Il a mal filmé le truc. Écoute, nous sommes des musulmans, hein, nous sommes des Sénégalais. Et le politique, le pouvoir politique a peur de ça.
Mm-hmm.
Ah, ouais. Ils sont prêts à sanctionner quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a fait qu'appliquer les textes. C'est une culture. Mm-hmm. Si même le gouvernement de la région a répondu le calife, mais tout de suite, il y a pas. Ah non, moi celui-là, je ne peux plus travailler avec lui. Ne l'envoyez plus à Ndiaza.
Oui.
Ça, c'est là. Il est obligé de. Il va à Tienaba, il va à Tienaba, mais on lui donne interdit de ce jeu à Ndiaza. Personne n'a non grata. Et puis, vous voyez, ça crée. On dit, autant le changer. Il dit, alors fais attention. Il faut faire le masla, quoi. Il faut vraiment les écouter, quoi. Parce que c'est nos électeurs, les talibés sont les électeurs. Les politiques ne sont pas bêtes. Ils ne le font pas par respect, ils ne le font pas, ils n'y croient même pas. Mais ils le font en disant, je veux gagner les élections. S'il y a une communauté qui vote contre nous, ça peut poser des problèmes. Et le Khalif, souvent quand ils ne parlent pas, ils le disent même en public. Quand, à une occasion, ils disent, non, nous avons des problèmes. Ou bien, ils vont dire qu'il y a quelqu'un qui va le dire. Voilà, une brigadeuse qui va dire, non, on nous maltraite, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et les politiques ont peur de ça. Ils veulent la paix, ils veulent que tout marche.
Oui. Bon, ma dernière question porte sur les médias.
Mm-hmm.
Vous avez évoqué la radio, la télévision. Et actuellement, on utilise beaucoup de portables, toutes sortes de ce qu'on appelle le nouveau média,
mm-hmm.
n'est-ce pas? Comment est-ce que vous voyez le rôle de divers médias pour faire connaître la tariqa et pour enrichir la vie religieuse spirituelle des talibés? Et est-ce qu'il y a des projets dans ce sens?
Oui. Nous, on a tellement appris auprès des médias leur importance. C'est ça, il faut le dire. Hein. Même, ils viennent filmer nos prières.
Mm-hmm.
pourquoi pas un message du calife, pourquoi pas une conférence de presse de Mohamed Kunta sur ce qui se passe à Niassa. Et il préfère montrer quelqu'un qui prie. Parfois je dis, ça peut être les khutbas en arabe, c'est long, puis il faut traduire. Ce qu'ils appellent les avant-premières, Saul le sait, écoute, vers 19h, il y a au moins 300 000 annonces pour dire qu'à Poror, on organise un petit gamou, etc. Celui qui ne le fait pas, on dit que le gamou n'est pas bon. Aussi, oui, c'est simple, c'est... Les gens sentent la nécessité, mais ils n'ont pas de mode d'emploi. Il ne faut pas laisser que les médias viennent vers nous, mais nous devons aller vers les médias. Mais les aider à organiser cela. Voilà. Mais j'ai dit, un gamou comme le gamou de Niassane, peut-être le petit gamou, Goudou Chiapo, mais pourquoi ne pas faire dans un salon que les gens parlent, mais que les gens sont là sur les chaises, on dit, toi c'est toi qui parles, les gens se répètent. On dit maintenant, comme il y a des communicateurs, des gens qui connaissent un peu la sociologie de la communication, ils disent, mais non, changeons les formes. Pourquoi ne pas convaincre toute la presse faire une conférence de presse? Il y aura la presse écrite, la radio, la télévision, etc. Ça passe. Pourquoi ne pas faire un message du calife lors des événements, lors des crises? Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière d'être visible? On est en train de... Et on a fait une commission de presse et de communication. C'est surtout des jeunes et on les réfléchit. Même si la manière de filmer les cérémonies, de prendre le calife, la manière d'organiser un peu le plateau. Est-ce qu'il ne faudrait pas lancer les gens aussi, aller dans les radios, faire des messages? Mais qui convient? Qu'est-ce qu'il faut dire? Parce qu'il peut y avoir même des dérapages contre tout cela. Quand est-ce que le calife doit parler? Parfois, mais il y a des sujets qu'il ne maîtrise pas. Regardez, si on dit au calife, mais que pensez-vous de l'émergence? Ceux qui parlent de l'émergence ne comprennent même pas l'émergence. Bon, mais qu'est-ce qu'il va dire? Il peut même parler de gamme à la place d'émergence. Mais si c'est un métier, mais il parle de l'émergence de l'IASA. Tout ce que nous avons dit, ça contribue à l'émergence de l'IASA, au développement de l'IASA. On ne l'a pas formé à ça. Il y a des choses qu'il ne faut jamais les dire. Mais le calife peut le dire. Si vous ne l'encadrez pas, il peut dénoncer quelqu'un. S'il y a du direct, c'est la catastrophe. Dire normalement à quelqu'un, oui, il ne fait pas son boulot, il est contre Niassane, il est contre la Kadria, ou bien peut-être recenser des propos, parce que souvent les gens, ou c'est les meilleurs, sont source de conflit. Il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Je donne un exemple. Nous, chez les Kadri, on fume la pipe. Donc on fume la cigarette. Dans tout cas, c'est interdit. Si maintenant quelqu'un de autre confrérie dit oui, écoute, les khadirs là, ou bien en tout cas, la cigarette là, ceux qui ne sont pas musulmans, ça veut dire qu'il a dit qu'ils ne sont pas musulmans. C'est extrêmement grave. Nous, on leur dit non, allez dans le Coran, donnez-nous le mot fumer, le tabac. Ou bien ils assimilent le tabac à autre chose. Donc, quelqu'un qui fume le tabac, il peut fumer autre chose, ce qui n'est pas vrai. Nous avons les tabalas, ces sortes de tambours, et ça nous vient du prophète. Quand quelqu'un dit non, ça c'est du sabbat, les gens, etc. Mais c'est dans la manière aussi de taper ce sabbat, il faut avoir du respect. Nous avons des symboles trop forts, mais quelqu'un peut pervertir ça en tapant comme, sur un autre tambour. Mais quand même, si quelqu'un attaque notre symbole, on dit oui, les tabalas là, c'est pas de l'animation, c'est. Mais nous, on peut être astreint à répondre. Donc oui, tout ça, les médias peuvent faire ressortir cette idée-là. Ou bien quelqu'un par inadvertance, non, le cher d'une confrérie, mais c'est un luxe sur le tapis. Donc entrez, donc tout le monde fait attention. Et on le contrôle. Et nous le contrôlons très 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 bien. Nous prenons cela en disant faites attention aux propos, ne frustrez pas les autres. Ne frustrez pas les autres en attaquant, en disant oui, c'est ce qu'ils font là, c'est pas fondé. Voilà. Moi, j'ai fait très attention à ça en disant ceux qui vont parler au nom de la famille, ils n'ont qu'à s'arrêter là. Voilà. C'est... Mais aussi quand on nous attaque, on est... on se dit, tiens, écoute, vous avez vu tel livre, on nous attaque. Je donne un exemple très puissant. Ils sont en train de faire l'histoire, la part de l'islam, dans l'histoire de l'islam. On ne nous a pas consulté. Vous allez voir, ils vont mettre deux lignes sur la khadir, deux. Qui est là-bas, il peut être. Il devait se déplacer comme vous.
Oui. Venir sur place.
Je, mais la khadir, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Mais ça ne fait du bien. Mais ils sont à l'hôtel méridien président. Ils convoquent des commissions. Chacun tire la couverture sur lui. Vous êtes le meilleur, sur, etc. Ça ne se passe pas. Ça. Pour le parti, il n'est pas un bon chercheur, parce qu'il était là pour autre chose. Mais il a fait l'historique sincère des familles. Évidemment, maintenant, c'est l'interprétation qui pose problème. Mais quand il venait à Niassa, il allait voir d'autres. Il était en disant, quand vous parlez, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Pour équilibrer les propos. Bon, s'ils sont pour toi, ils vont dire, ah oui, c'est nos voisins. C'est un peu... Il y a un respect. S'ils tirent sur la couverture aussi. Il y a un, c'est une petite anecdote, il y a un fou qui est allé dans les cimetières. Il dit, mais vous là, vous ne faites que dormir, vous ne réagissez pas. Personne n'a répondu. Mais vous n'avez pas de téléphone là-bas pour nous dire qu'est-ce qui se passe, le résultat, qui est le meilleur, etc. Personne n'a répondu. Il dit, moi, je vais vous dire, peut-être pas ici, mais écoute, les gens se sont partagés vos biens. Tout ce que vous cachiez, maintenant, tout le monde le sait. Les fonds de valise, les fonds de... Il dit, mais ce qui est gênant, c'est le grand silence-là. On n'a pas d'écho. Il n'y a pas de feedback. Mais je dis, ce n'est pas du propos de fou. Mais c'est la test réalité. Les gens devaient faire attention. Mais aussi, l'espérance est là. Je pense qu'il faut espérer. C'est vrai. Parce que si il n'y avait pas ces conflits, s'il n'y avait pas Dieu, s'il n'y avait pas la foi, mais il y aurait des problèmes. Un Indonésien, un musulman indonésien cherche, il dit, moi je ne suis pas esclave de Dieu, je suis un homme. Parce que même s'il y avait un décret pour dire lundi on va arrêter l'islam, moi je vais continuer. Parce avec l'islam j'ai la paix, j'ai l'hygiène, je fais des ablutions. On me dit de ne pas vrai, on me dit de ne pas mentir, on me dit de respecter la personne, on me dit de travailler. S'il n'y a même pas de paradis, moi... C'est l'organisation sociale qui oui. C'est cette sécurité que j'ai dans l'islam, oui. C'est cela. Je ne sais pas si vous avez compris, mais j'ai beaucoup aimé ces propos-là. C'est un Indonésien, un religieux qui dit c'est ça. C'est une adhésion volontaire. Et même si mon cher me dit arrête lundi, mais il n'y a plus d'islam, on arrête maintenant, l'islam c'est fini, moi je vais continuer. Parce que ça me protège, ça me donne une raison de vivre. Ça me permet d'adorer un Dieu que je n'ai pas vu.
Oui.
Mais dans ma liberté, on ne me frappe pas pour être musulman.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc, je ne suis pas esclave, l'esclave de Dieu. C'est-à-dire, je ne suis pas esclave. Je suis un noble face à Dieu. C'est-à-dire, ce que je fais volontairement, par adhésion, mais au nom aussi de ma liberté. Voilà, je pense qu'il faut aller dans
ce sens. Bon, je crois que c'est une bonne manière de terminer, mais si vous voulez ajouter quelque chose...
Oui. Moi, je pense que c'est cela. Saluer un peu la démarche. C'est de la recherche. Mais ça nous permet aussi de nous exprimer, d'être entier. Parce que tout ce que nous disons, c'est très sincère. C'est très sincère. Parce qu'on dit, c'est un savoir qu'on va mettre à la disposition du monde. L'histoire dira un jour Maria, qui venait des États-Unis, est allée dans un petit village insignifiant, dans le Cayor, la côte de Thiers et Thuan. Écouter des gens, ça fait partie du commerce des gens, de la personne. Et oui, ça nous permet d'abord peut-être de dire ce que nous avons envie, mais aussi de faire avancer l'humanité.
Oui.
De faire avancer l'humanité. Et ça, ça a un prix.
Oui.
D'abord, les collègues, vous devez prendre votre avion aujourd'hui, mais vous teniez à cette interview. Peut-être qui me permettra aussi de dire, parce que si vous étiez rentré sans que je vous voie, je dirais, allez, Maria ne comprendra pas que je n'ai pas le temps, j'ai voyagé. Je suis là, j'étais un peu, j'avais la grippe. Mais vraiment, ça me permet de dire ouf, enfin j'ai dit quelque chose. Et peut-être on aura l'occasion encore de revenir, de dire qu'est-ce qu'on avait fait en 2015, au mois d'août. C'est ce contact-là très sincère Et le salaire de cela, c'est vraiment de se faire connaître. De dire que quelqu'un est venu d'un autre continent vers nous. Cet intérêt que vous avez sur la Khadiria, on le dit, et les plus se trompent souvent en disant qu'ils sont minoritaires. Donc il y en a qui sont plus nombreux, etc. Mais il peut pas dire, il y en a qui sont plus sérieux.
Oui.
C'est ça le plus
oui,
important. Il faut être sérieux.
Oui.
Il faut organiser ce qui est là. Il faut savoir pourquoi on est là, qu'est-ce que la Khadiria, quel est le rapport avec les autres, et aussi tendre la main aux autres, mm-hmm. en disant quand même, s'il n'y a que l'islam, nous devons être ensemble.
Oui. Mm-hmm.
Voilà. Également, prendre des positions très claires par rapport à l'actualité. Ce terrorisme qui est là, qui n'a pas son nom. Et les gens le font au nom de l'islam. Mm-hmm. Et même, ils mettent un mot islamisme. Une terreur associée à l'islam, ça c'est extraordinaire. Tous les musulmans ne sont pas venus. Et quelqu'un qui n'est pas d'un certain niveau, il ne comprendra jamais. Regardez maintenant ce qui est écrit autour de l'islam, l'index apporte. Pour faire comprendre à un Américain moyen, à un Français moyen, que ce n'est pas cela. Sinon c'est la haine, c'est le racisme, c'est autre chose. Il y a même des gouvernants, des responsables politiques, des chefs d'État qui ne comprennent pas. Ils pensent qu'il faut répondre, il faut, etc. Non, c'est là où il y a une minorité. Qui gouverne, mais avec la violence.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Je pense que la violence ne se règle pas par la violence. Mm-hmm. Il y a des moyens de faire. Il y a eux-mêmes, ceux qui font ça, ils sont ignorants.
Mm-hmm.
Voilà. Si vous avez le sens de la religion, d'origine, comme le voulait le prophète Mohammed, comme le veulent les califes, les gens dans l'islam, mais c'est la paix. C'est une très grande communauté qui ont les mêmes objectifs, les mêmes prières, la même direction de prière, les mêmes réflexes, le même livre, ça aurait pu faire. Mais il y a toujours des têtes brûlées et des brebis galeuses.
Oui.
Et il y a aussi des confusions graves. On assimile un tel à un autre. Voilà. Aujourd'hui, si un bombe, on dit, ah, est-ce que c'est pas un arabe? Est-ce que c'est pas... Et même parfois maintenant, c'est des Africains noirs qui sont nés en France, qui n'ont pas eu cette culture-là. C'est pas un problème de peau, mais c'est un problème de formation, d'encadrement, d'acquisition de valeurs. Mmh. Et les valeurs se perdent.
Mmh.
Tout le monde peut être violent. Ce n'est pas seulement l'arabe qui
oui,
etc.
Oui.
Mais regardez, ils sont marginalisés à l'intérieur d'une république. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec des HLM, avec tous les problèmes qu'il y a. Et vous voulez en faire des citoyens normaux, ce n'est pas possible.
Mmh.
C'est à la base qu'il faut. Maintenant, vous allez voir, c'est des réactions inhumaines pour régler des situations extraordinaires.
Mmh.
Oui, on leur prive de nationalité, on va le retirer. Non, ce n'est pas ce problème-là.
Mmh.
Ce n'est pas ce problème-là. Ce n'est
mmh.
pas ce problème-là. Et aussi, ils le disent, regardez un peu, ce riche-là vers l'Europe. Mais oui, il y a des disproportions.
Mmh.
Et les gens vont aller du sud vers le nord. Même s'ils mettaient toute l'armée,
ouais.
quelqu'un l'avait dit,
mmh.
mais ils iront vers le nord.
Mmh.
Même
mmh.
s'il faut faire des canons sous la mer, mmh. mais ils iront vers... Il y a un appel. Mais je pense que l'Occident a un devoir d'aider. D'encadrer. Parce que si les gens avaient le boulot, mais regarde à Dakar, tu vois quelqu'un qui vend de l'eau. Mais si vous l'occupez un peu, il a un congé de l'eau, mais il va vendre mieux. Il va vendre mieux. Il y a des gens qui viennent de Tchernobyl, ils achètent, ils vendent des cacahuètes dans les carrefours. Si on les aidait à s'organiser avec la microfinance, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Et même dans les familles, au lieu de donner des enveloppes, il y a des manières de recruter des gens, de les former, de donner des bourses. C'est tout à fait normal. Quand les gens reviennent, mais ça y aura des changements. Mais c'est le statu quo, ça ne bouge pas. C'est des enveloppes, c'est des cadeaux, c'est des grandes déclarations. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Même avec l'administration, le préfet est assez distant, le sous-préfet, il y a un sous-préfet qui est là, qui a déjà un peu, qui ne prend pas ses responsabilités, parce qu'il a peur de ceci, il a des frontières, il ne peut pas dépasser tel truc. Même la justice, par rapport à cela, on pouvait collaborer. Il serait même bon, ça c'est un conseil que je donne, qu'ils prennent dans chaque famille religieuse un ou deux personnes, même sans les rémunérer, les avantages, ils se réunissent, ils parlent un peu de cela. Qu'il donne aussi au ministère de l'Intérieur une direction des cultes tournante. Parfois on met un tidjan, parfois un khadr, mais qui est à la hauteur, qui a de l'ouverture, qui, etc. Mais ça pourrait également aider à équilibrer. Voilà. Et ils le savent. Parce que regardez, quand ils veulent suivre les choses, c'est au niveau de leur parti, de leur coalition, ils le font. pourquoi ne pas le faire dans le livre. C'est des femmes stérilisées, rentrées, mais dignement, mais avec transparence, avec des lettres de mission, voilà ce qu'on attend de vous. Voilà. Sans mettre de l'argent à côté, oui, vous allez les retirer. Non, c'est un déplacement, vous vous déplacez. Regardez, il a amené les chefs religieux à la Mecque, mais c'est un beau geste. Très beau geste, je le salue. Si on me dit, il ne faut pas remercier le président, parce que ça veut dire que vous êtes quoi, mais je vais remercier. Il m'a permis de faire un pli de discours. J'étais dans son avion, on a discuté. Mais c'est un tout petit geste, et on était six. Parce que c'est à tout de rôle. Il a plus de chandelles et il dit maintenant je prends un autre. Voilà. S'il avait parlé de minorité, il y a des problèmes. Ouais. Il y a des gens qui ne sont même pas de mais qui sont les chefs de chez eux. Mais je vous assure, dans la rue, il y avait tout cela. Il y avait quelqu'un qui était venu de un maître d'école coranique qui est venu de Kola, qui est connu pour la manière d'enseigner et la formation. Et ça, je ne sais pas qui lui a conseillé ça, mais c'est une très bonne chose. Et la prochaine fois, d'autres partiront. Voilà. Mais ce n'est pas un voyage tout style. Mais de réunion, d'approche, parce que c'était le ramadan, et on prenait les repas ensemble. Extraordinaire. Si on était 20 ans, ça ne serait pas, mais 6 personnes. Et j'ai senti tout de suite qu'il voulait réparer quelque chose. Il dit, j'ai amené, soi-disant, les grandes confréries, mais il faut que je pense aussi à des gens très discrets, qui ne sont pas si petits que ça. Voilà. Et des gens un peu isolés. L'autre jour, il a fait un discours, c'était je pense à l'université ou je ne sais plus, où il parlait des chefs religieux. Je vous assure, il a parlé des gens presque pas connus, anonymes. J'ai dit, mais qui lui a donné ce conseil? Il a dit, Socorro, chez les dames. On oublie. C'est des gens qui ont beaucoup fait pour ça. C'est une question de famille. Parce que ce n'est pas une question de sang, mais de course, de construction et d'adhésion. Et ça m'a fait plaisir qu'on entende le nom de rampe de quelqu'un. Il se pensait oublié. Il pensait qu'on le parle. Il est en train de dire oui, telle famille, de la famille de Socorro, les Dem, ils se sentent valorisés. Bon, il aurait su que le président, je ne sais pas par qui me dit ah, je salue le calife d'Andiassan, il a dit Mamboum, le lendemain, il a mis tout le ministère là. Mais comment vous avez fait, etc. Si le mot salut, Mohamed, professeur, comment vous allez? Le lendemain, j'ai des amis nouveaux, hein, les gens vont me dire qu'il est très proche du président. Même avec ce voyage-là, les gens me disent je vous dis à la télé, à côté du président. Donc, vous voyez, ce marketing-là, cette manière de valoriser, de sentir les gens, je pense que c'est extraordinaire. J'ai dit, on s'est expliqué parce que j'avais écrit dans un journal que je n'étais pas content de sa communication. Et les conseils en communication ont dit non, mais de quoi il se mêle le professeur Kunta? Non, j'ai dit, moi j'ai fait de la communication. Un président, pour envoyer des soldats, n'a pas besoin de dire je suis le chef suprême des armées. Tout le monde le sait. Mais si c'est au-delà d'une, on aurait convoqué le Congrès. En France, c'était également l'assemblée, les gens vont dire. Mais je pense que personne ne serait contre. Il faut dire ce qu'ils font là-bas. Et même sur le plan technique, en disant il y a des choses, je ne peux pas les dire, c'est confidentiel. Mais une armée, elle doit s'entraîner. S'il y a une occasion d'entraînement, il faut les envoyer. Mais pas pour dire c'est pour garder les lieux sains. Non. C'est une mission qui est là-bas. Et nous sommes très fiers, nous sommes un petit pays. Mais on fait au professionnalisme de notre armée, c'est une très bonne chose. Mais dire aussi que peut-être ils sont en mission, ils sont payés. Ce n'est pas gratuit. Le ministère, il s'est fait un peu quelque chose. Et d'ailleurs, tout le monde se bouscule pour aller là.
C'est ce que je voulais dire.
D'ailleurs, j'ai soufflé au président. Je lui ai dit, moi, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un saut là-bas pour voir le soldat? Il a souri. Il dit non. Il vient juste d'arriver. Quoi. Tu es si engagé. Il dit non. Il serait bon qu'on le voit un peu au front. les marabouts du Sénégal sont les chefs, ils viennent pire. Je vais rencontrer un disciple Khadou ou un Sénégal tout court qui sera très content, mais un chrétien pourquoi pas. Mais il a souri et ça l'a tellement intéressé. J'ai dit, as-tu pris à part là? J'ai dit, mais non, c'est loin. C'est... Et il vient juste d'arriver. Mais c'est des signes forts. Parfois, on voit le président américain aller à Drac, au front, parce que nous, ce n'était pas parce qu'il n'y a pas de danger. On verrait des Sénégalais au front en tenue. On nous a dit, mais oui, on est venu à la Mecque, on a fait le petit prélat, on vient vous saluer et prier pour vous. Mais c'est un acte de communication.
Ouais.
Donc c'était dans ce sens qu'on qu'on est venu. Mm-hmm. Bon, peut-être, il va à Touba, il va à Théon. Théon, c'est là. Quand il dit Théon, mais pourquoi ne pas passer à Niassa? Dis bonjour, il a fait une fois. Mm-hmm. Il n'a qu'à systématiser cette affaire-là. Mm-hmm. C'est la même chose. Mm-hmm. Mais quand tu dépasses Niassa, tu rentres.
Non, c'est pas bien.
Qu'est-ce que ça signifie? Mm-hmm. C'est pas le khalif qui va dire ça, c'est pas moi. Mm-hmm. Mais un talibé, celui-là, il ne concerne pas mon khalif. Il fait un crochet, même 15 minutes, il dit, je viens chercher des prières. Mais c'est un plus. Il a quitté Touba, mais il n'est pas pour Niassa. Mm-hmm. Il m'a dit, oui, c'est vrai, moi je voulais revenir pour Niassa. Et puis je devais aller en France, etc. J'ai dit, en tout cas, monsieur le président, quand vous quittez les Touba, passez par Niassa. Mm-hmm. Ça me sonore. Mm-hmm. Ça me sonore. Si vous envoyez de l'intérieur à Touba, à Touba, envoyez-le à Niassa. Mm-hmm. Ça ne coûte rien. Ouais. Et c'est la considération. Ouais, ouais. Si on ne le fait pas, moi-même ne va rien dire. Hein. Je veux dire, non, c'est un problème de temps. Entrez. C'est un problème de temps. Ouais. Mais un autre ne. Ouais. Pas mal, presque.
Ah, bah, d'accord.
Pas mal. Un autre n'aurait pas compris. Il dit, ah, mais pourquoi pas? Il se fiche des cadres. Nous ne comprenons pas. Voilà. D'autant plus qu'il va, il peut aller à Medinogras, qui n'est pas plus important que Niassa. Parce qu'il a des parents, c'est un peu ses parents. Mm-hmm. Mais on va dire, mais tiens, il peut aller à Pire. Pire, qu'est-ce que Pire? C'est un ancien ambassadeur qui est là-bas, mm-hmm. qui est Tidjan.
Oui, c'est un Tidjan. Voilà.
Mais donc, s'il va à Tidjan, il le fait pour l'autre. Mm-hmm. Donc, pourquoi pas aussi aller à Tidjan là-bas, faire la même chose. Mm-hmm. En temps de route. Mm-hmm. Regarde, autre station, dans le Sénégal, il n'y a pas une rue ou une école qui porte le nom de Cheikh Gouné. Mm-hmm. Parce que nous avons fait pour ne pas le mener. Il est allé à Paolo, tout de suite il a improvisé dans le truc, il dit, maintenant l'Unis va s'appeler Ibrahim Agnès. Les gens n'avaient pas, ils avaient un autre nom, mais tout de suite dans l'ambiance, ils ont dit, non, on change. Bon, il y a une famille Kanké qui est là-bas, qui est frustrée. Il y a la famille d'elle. Si moi je suis son cousin en éducation, je veux le sujet de ces choses-là. En disant, l'Unis de Touba Koutala, il n'a qu'à porter le nom d'Ibrahim Agnès. C'est toute la région, tout le département qui se raconte. Mm-hmm. Mais nous, regarde, l'Université de Thiès pouvait porter le nom de Cheikh Gouné. Mm-hmm. Parce qu'il y a le lycée Raïd Mali, il y a ceci, il y a ça. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Hum? Ouais. C'est comme ça qu'il faut que je le vois. Mais parce que je connais un peu le fonctionnement de l'Afrique, comment les gens réfléchissent. Mm-hmm. Mais vous, je réagis en intellectuel. Parfois même je dis, je ne le fais pas en tant que le plan, je le fais moi en tant que le plan. Ce qui s'est passé à lui aussi, si c'était constaté avec les gens, moi je lui ai dit de ne pas partir. Ou bien c'est pas, il y a un exemple, je parle. C'est nous qui avons appris aux étudiants, aux élèves, ce n'est pas normal. Quand ils nous l'appliquent, nous devons dire c'est un problème. Accepter. Oui, il n'a de sens que quand on peut dire non. Bon, justement, c'est pas très pour lui d'envoyer des pierres. Ouais. Mais il s'est débrouillé, il avait de la sécurité. Il ne s'est pas blessé. Mm-hmm. Ailleurs, c'est des œufs pourris qu'on envoie. Mm-hmm. C'est des manières de dire non. Mm-hmm. Et je pense que le défoulement, c'est extrêmement important. Vous les laissez. On n'a pas besoin d'aller donner de l'argent, de la qualité, des t-shirts. On vient à un milieu universitaire. Je les affronte, même s'ils me jettent des pierres. Mm-hmm. Voilà. Mais le fait de renoncer à aller voir sa chambre, tout ça. Mais ils vont dire, c'est un. Le fait de continuer à prendre des étudiants et à les mettre en prison. Mm-hmm. Et c'est des gens qui appartiennent à d'autres parties. Mm-hmm. Pourquoi accuser? C'est une réaction normale d'étudiants. Mm-hmm. Bien que c'est la première institution qu'on a. Mais on pouvait le condamner. Ce n'est pas à lui. Il devait laisser les autres le dire. Mm-hmm. Moi, je suis prêt à dire, mais ces étudiants-là, ils sont irresponsables. Mm-hmm. J'ai des pierres à la prison. Mais pardonnez quoi. Mm-hmm. Voilà. Il y a quelqu'un qui a reçu tout, mais lui, il s'est super bien protégé. Moi, si je pouvais avoir cette protection-là. Les gens sont couchés sur avec des trucs. Oui. Voilà. Heureusement, le sang-froid, ils auraient dû tirer. Mm-hmm. Ailleurs, dans le pays, ils auraient tiré sur la faute. Ouais. Ouais. Il parle. Mm-hmm. J'étais étudiant. Comme il a dit, il a fait, je ne sais pas, une guide de toi. Ils sont parfois, quand ils n'ont pas de ticket, ils forcent la porte et ils mangent. Ils disent qu'ils aiment bien faire ça. Mais donc aussi, l'UEC a été toujours un lieu de contestation. C'est nous qui avons appris aux étudiants à contester. Avec la philosophie alternative. C'est pas normal. Vous ne devez pas le faire. Mais quand on nous l'appelle maintenant, on veut former des démocrates, mais la démocratie a un prix. Moi, je l'ai pardonné. Je l'ai pardonné, même si je le sais un truc. je suis allé en milieu hostile. Ouais. Il était mal pensé, les races majeures. Mm-hmm. Mais même avec ça, j'ai pris le risque de j'y vais quand même. Mm-hmm. On ne peut pas m'interdire, moi, président de la République, d'aller à l'université. Mm-hmm. Parce que tout a été positif, même le syndicat a dit, ils ont donné des logements, tout cela. Mm-hmm. Oui, mais c'est politique.
Ouais. Ouais.
C'est religieux. Regarde, toutes les confrères sont représentées à l'université. Oui. Il y a des imams, il y a cinq imams qui ne se parlent pas. Maria, je vais vous dire, c'est pas vrai. Mais vraiment, je le dis sincèrement, je suis disponible, même par les mails, etc. On peut continuer à collaborer. Et c'est parce que souvent, ils amènent les chefs religieux, les fils de chefs religieux, aux États-Unis, pour leur faire découvrir un peu les valeurs américaines, etc. Si j'ai cette occasion aussi, vraiment, je viens dans votre université. Ouais. Il faut qu'on soit en contact par l'avocat. L'avocat est un ami. L'avocat vraiment est un ami, un collègue. Voilà, et les choses se sont bien passées parce qu'on a eu faillite. Nous sommes plusieurs fois appelés pour une bonne condamnation.
Ouais.
Voilà. Et si vous étiez rentré sans cette interview, moi, j'aurais des problèmes parce que je n'ai pas fait mon devoir.
Ouais.
Tout.
Merci beaucoup.
Mais vous avez eu le courage de revenir à Yassan et de retourner.
Ouais.
Hein? Hein?